Mon cours au début de janvier, j'ai été malade, j'étais réellement malade. Je sais que il y a eu des bruits qui ont couru disant que c'était pour me débarrasser d'une partie de mon auditoire. J'avais brouillé les dates et commencé là. Non, j'étais réellement malade. Et par conséquent, je vous demande de m'excuser. Je vois d'ailleurs que ça n'a pas résolu le problème de... du nombre de places. L'autre salle n'est pas ouverte. Vous avez demandé, la réponse a été qu'on... catégorique. Elle ne sera pas.
Si on en fait la demande.
Si on en fait la demande. Non. Écoutez, alors je suis d'autant plus désolé parce que je pensais que ça se ferait automatiquement. Ouais. Bon, je sais pas si on peut essayer de le faire maintenant. Oui, ça vous ennuierait pas d'aller regarder si c'est pas possible de faire ça pour maintenant ou éventuellement pour l'heure suivante. Je déteste vous faire venir pour vous laisser dans ces conditions matérielles désastreuses. Bon, cette année. Je voudrais continuer un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'avais commencé l'an dernier sur ce thème de la parésia, du dire vrai. Les cours que je voudrais faire seront sans doute un petit peu décousus parce qu'il s'agit d'un certain nombre de choses que je voudrais en quelque sorte terminer pour revenir après ce trip gréco-latin qui a duré plusieurs années, revenir à un certain nombre de problèmes contemporains. Que je traiterai soit dans la seconde partie du cours, soit éventuellement sous la forme d'un séminaire de travail. Alors là, je voudrais vous rappeler une chose. Vous savez que les cours du collège sont et doivent être, en termes du règlement, des cours publics. Donc il est absolument exact que n'importe qui, citoyen français ou non d'ailleurs, a le droit de venir écouter ces cours. Les professeurs du collège ont l'obligation de faire part régulièrement dans leurs cours publics des recherches qu'ils font. Ce principe pose tout de même un certain nombre de problèmes et soulève un certain nombre de difficultés parce que c'est vrai que le travail que l'on peut faire, la recherche que l'on peut faire, implique de plus en plus et surtout sur certaines questions comme celles que j'ai traitées autrefois, auxquelles je voudrais revenir maintenant, c'est-à-dire... analyse un certain nombre de pratiques et d'institutions dans la société moderne, ça implique très souvent un travail collectif qui, bien entendu, ne peut pas se faire dans une salle comme ça, et avec un public si nombreux, ne peut se faire que dans la forme d'un séminaire qui est fermé. Je ne vous cache pas que je poserai le problème de savoir s'il est possible, si peut-être institutionnellement acceptable, de partager le travail que je fais ici entre des cours publics, encore une fois, qui font partie du métier et qui font partie de vos droits, et puis une autre partie qui serait réservée à des groupes de travail avec un certain nombre d'étudiants ou de chercheurs plus spécialisés dans la question à étudier. Et les cours publics seraient en quelque sorte la version exotérique du travail un peu plus ésotérique que l'on fait en groupe. En tout cas, donc je ne sais pas combien de cours publics je ferai, et je ne sais pas jusqu'à quand je les ferai. Alors si vous voulez, embarquons-nous, et puis on verra bien. Cette année, je voudrais continuer l'étude du franc-parler, de la parésia, donc, comme modalité du dire vrai. L'idée générale, je la rappelle pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas été là l'an dernier, l'idée générale étant celle-ci... Il est absolument vrai, il n'est pas du tout question de nier, il est intéressant et important d'analyser dans ce qu'elles peuvent avoir de spécifique les structures propres aux différents discours qui se donnent et qui sont reçus comme discours vrais. L'analyse de ces structures spécifiques aux discours qui se donnent et qui sont reçus comme vrais, l'analyse de ces structures spécifiques, c'est en gros ce qu'on pourrait appeler une analyse épistémologique. Mais d'autre part, il m'a semblé qu'il serait également intéressant d'analyser dans ces conditions et dans ces formes le type d'acte par lequel le sujet disant la vérité se manifeste, et par là je veux dire se représente à lui-même et est reconnu par les autres comme disant la vérité. C'est-à-dire qu'il s'agirait là d'analyser, non pas du tout les formes du discours telles qu'elles sont reconnues comme telles qu'il est reconnu comme discours vrai, mais il s'agirait là d'analyser sous quelle forme, dans son acte de dire vrai, l'individu se constitue lui-même et est constitué par les autres comme sujet tenant un discours de vérité. Sous quelle forme se présente à ses propres yeux et aux yeux des autres celui qui dit vrai, la forme du sujet disant la vérité. Eh bien, l'analyse de ce domaine pourrait être rappelée par opposition à l'analyse des structures épistémologiques, l'étude des formes alléturgiques, et j'emploie là un mot, vous savez, que j'avais commenté l'an dernier ou il y a deux ans, la liturgie étant étymologiquement la production de la vérité, l'acte par lequel la vérité se manifeste. Donc, laissons de côté les analyses de type structure épistémologique et analysons un peu les formes alléturgiques. Bon, deuxièmement, je voudrais rappeler, et c'est ça, c'est dans ce cadre-là que j'étudie la notion et la pratique de la paresse. Deuxièmement, je voudrais aussi rappeler, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas été là, comment j'en suis arrivé à ce problème. J'en suis arrivé à ce problème, eh bien, à partir de la vieille question traditionnelle au cœur même de la philosophie occidentale, la vieille question des rapports entre sujet et vérité, question que j'ai posée, reçue d'abord dans les termes classiques et habituels, traditionnels, c'est-à-dire à partir de quelle pratique et à travers quel type de discours a-t-on essayé de dire la vérité sur le sujet ? Ainsi, comment, à partir de quelle pratique, à travers quel type de discours, est-ce qu'on a essayé de dire la vérité sur le sujet fou ou sur le sujet du délinquant ? À partir de quelle pratique discursive est-ce qu'on a constitué comme objet de savoir possible le sujet parlant, le sujet travaillant, le sujet vivant ? Bon, c'est tout ce champ d'études que j'ai essayé de parcourir pendant une période. Et puis, cette même question, les rapports sujet-vérité. J'ai essayé de l'envisager sous une autre forme, celle non pas du discours dans lequel on pourrait dire la vérité sur le sujet, mais celle du discours de vérité que le sujet est susceptible et capable de dire sur lui-même dans un certain nombre de formes qui sont culturellement reconnues et typées, que ce soit par exemple l'aveu, la confession, l'examen de conscience. Et c'était là l'analyse des discours vrais que le sujet tient sur lui-même et dont on a pu voir facilement l'importance, on connaît l'importance dans les pratiques pénales ou encore dans ce domaine que j'ai étudié de l'expérience de la sexualité. Et donc c'est ce thème-là, ce problème-là du dire vrai sur soi-même qui m'a amené dans les années précédentes et dans les cours que j'ai faits à essayer l'analyse historique des pratiques du dire vrai sur soi-même. Et c'est en faisant l'analyse historique de ces pratiques du dire vrai sur soi-même que je me suis aperçu de quelque chose à quoi je ne m'attendais pas tout à fait. Si vous voulez, peut-être sans doute un peu plus précis. Bon, il est facile de constater combien dans toute la morale antique, dans toute la culture grecque et romaine, a été grande l'importance du principe « il faut dire vrai sur soi-même ». On peut citer à l'appui et comme illustration de l'importance de ce principe dans la culture ancienne, on peut citer les pratiques, vous savez, si fréquemment, si constamment, continuellement recommandées, de l'examen de conscience par exemple, qui était prescrit chez les pythagoriciens, qui était prescrit chez les stoïciens, dont Sénèque, vous savez, a donné des exemples si développés, qu'on retrouve chez Marc Aurèle, etc. On peut aussi citer, comme exemple et illustration de l'importance du principe qu'il faut dire vrai sur soi-même, un certain nombre de pratiques, comme ces correspondances, ces échanges de lettres, lettres morales, spirituelles, dont Sénèque, dont Pline le Jeune, dont Fronton et Marc Aurèle, donnent des exemples. On peut citer aussi, toujours comme illustration de ce principe qu'il faut dire le vrai sur soi-même. D'autres pratiques, peut-être moins connues et qui ont laissé moins de traces, comme par exemple ces carnets de notes, ces espèces de presque journaux qu'on recommandait aux gens de tenir sur eux-mêmes, soit pour faire la recollection et la méditation des expériences faites ou des lectures que l'on avait pratiquées, soit encore pour raconter, se raconter à soi-même au réveil les rêves qu'on avait faits, etc. Bon. On a donc là, d'une façon très évidente, très massive, assez facile à repérer, dans la culture ancienne, tout un jeu de pratiques impliquant le dire vrai sur soi-même. Ces pratiques ne sont certainement pas inconnues et ce n'est pas du tout la prétention de dire que je les ai découvertes. Ce n'est pas ça mon intention. Mais je crois que ces formes de pratiques du dire vrai sur soi-même, on peut, ou il y a une certaine tendance qui consiste à les analyser en, en les rapportant en quelque sorte à un axe central qui est, et c'est tout à fait légitime, cet axe central, c'est bien entendu le principe socratique du « connais-toi toi-même ». Et on peut y voir l'illustration, la mise en œuvre, l'exemplification concrète du principe gnotis eutôn. Mais je crois qu'on peut aussi, qu'il serait intéressant de replacer ces pratiques du dire vrai sur soi-même, cette obligation du dire vrai, cette incitation du dire vrai sur soi-même, il me semble qu'il serait intéressant de la replacer aussi dans un contexte plus large, un contexte plus large qui est défini par un principe dont le gnotis eutôn n'est lui-même qu'une application, et ce principe, c'est, je crois l'avoir essayé de le faire apparaître dans le cours d'il y a 2 ans, c'est le principe de l'épiméléga eutou, du souci de soi, de l'application à soi-même. Et je crois que ce précepte, qui est si archaïque, si ancien, dans la culture grecque et romaine, et que l'on trouve très régulièrement associé dans les textes platoniciens, et précisément dans les dialogues socratiques avec le gnotis eutôn, ce principe épimélé, c'est auto, occupe-toi de toi-même, je crois que ce principe a donné lieu au développement de ce qu'on pourrait appeler toute une culture de soi, dans lesquelles on voit se formuler, se développer, se transmettre, s'élaborer, tout un jeu de pratiques de soi. Bon, eh bien, c'est en étudiant ces pratiques de soi comme cadre historique où s'est développée l'injonction du « il faut dire vrai sur soi-même », eh bien, c'est en étudiant ces pratiques de soi que j'ai vu se profiler, en quelque sorte, un personnage. Un personnage qui est très constamment présenté comme le partenaire indispensable, en tout cas comme l'adjuvant presque nécessaire de cette obligation de dire vrai sur soi-même. En termes plus clairs et plus concrets, je dirais ceci. Il n'est pas nécessaire d'attendre le christianisme. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'institutionnalisation au début du XIIIe siècle de la confession. Il n'est pas nécessaire d'attendre avec l'Église romaine l'organisation et la mise en place de tout un pouvoir pastoral pour que la pratique du dire vrai sur soi-même prenne appui sur et fasse appel à la présence de l'autre qui écoute, de l'autre qui enjoint à parler, et de l'autre qui parle lui-même. Le dire vrai sur soi-même a été, et ceci dans la culture antique, donc bien avant le christianisme, le dire vrai sur soi-même a été, dès la culture antique, une activité à plusieurs, une activité avec les autres, et plus précisément encore, une activité avec un autre, une pratique à deux. Et c'est cet autre dans présent et nécessairement présent. Dans la pratique du dire vrai sur soi-même, c'est cet autre qui m'a retenu et arrêté. Le statut de cet autre, si nécessaire pour que je puisse dire le vrai sur moi-même. Présence de cet autre pose évidemment un certain nombre de problèmes et n'est pas tellement facile à analyser. Car s'il est vrai que nous connaissons bien, relativement bien, cet autre, si nécessaire ou dire vrai sur soi-même dans la culture chrétienne où il prend la forme institutionnelle du confesseur ou du directeur de conscience, si nous connaissons relativement bien, enfin, si on peut repérer assez facilement dans la culture moderne cet autre dont il faudrait sans doute analyser plus précisément le statut et les fonctions, cet autre qui est indispensable pour que je puisse dire vrai sur moi-même, qu'il soit le médecin, le psychiatre, le psychologue, le psychanalyste, etc. En revanche, dans la culture antique, où pourtant sa présence est parfaitement attestée, il faut bien reconnaître que son statut est beaucoup plus variable, beaucoup plus flou, beaucoup moins nettement découpé et institutionnalisé. Cet autre qui est si nécessaire pour que je puisse dire le vrai sur moi-même, cet autre dans la culture antique, eh bien, ça peut être un philosophe de profession, mais ça peut être aussi n'importe qui. Souvenez-vous, par exemple, ce texte de Galien sur la cure des erreurs et des passions, où il dit qu'on a besoin, pour dire la vérité sur soi-même, pour se connaître soi-même, d'un autre qu'on doit aller prendre un peu n'importe où, pourvu que ce soit un homme d'âge et sérieux. C'est peut-être un philosophe de profession, ça peut être aussi un quidam. Il peut être un professeur qui fait plus ou moins partie d'une structure pédagogique institutionalisée, Épictète dirigeait une école, mais ce peut être un ami personnel, ce peut être un amant. Il peut être un guide provisoire pour un jeune homme qui n'a pas encore atteint tout à fait sa maturité, qui n'a pas encore fait ses choix fondamentaux dans sa vie, qui n'est pas encore tout à fait maître de lui-même, mais ce peut être aussi un conseiller permanent qui va suivre quelqu'un tout au long de son existence et qui va le mener jusqu'à sa mort. Souvenez-vous par exemple de Démétrius le Cynique, qui était le conseiller de cet homme qui fut important dans la vie politique romaine au milieu du 1er siècle, Thrasea Petus, et qui lui a servi de conseiller jusqu'à sa mort, jusqu'au jour même de sa mort, et jusqu'au geste de son suicide, puisque Démétrius a assisté au suicide de Thrasea Petus, et lui a l'entretenu, à la manière bien entendu du dialogue socratique, l'a entretenu de l'immortalité de l'âme jusqu'à son dernier soupir. Donc le statut de cet autre est un statut variable, et son rôle, sa pratique elle-même, n'est pas tellement plus facile à isoler, à définir, puisque d'un certain côté, ce rôle touche à la pédagogie, s'appuie sur elle, mais c'est aussi une direction d'âme, ça peut être aussi une sorte de conseil politique, mais également ce rôle se rapporte, se métaphorise, et peut-être même manifeste et prend forme dans une sorte de pratique médicale, puisque c'est bien du soin de l'âme qu'il est question et de la détermination d'un régime de vie, d'un régime de vie qui comporte bien entendu le régime des passions, mais aussi le régime alimentaire, le mode de vie sous tous ses aspects. Mais de toute façon, quelle que soit l'incertitude, ou si vous voulez, la polyvalence, les différents aspects et profils sous lesquels on peut voir apparaître cet autre si nécessaire à dire la vérité sur soi-même, si ses profils sont nombreux, s'il est polyvalent, si son rôle même entre médecine, politique, pédagogie n'est pas toujours facile à saisir, de toute façon, quel que soit ce rôle, quel que soit ce statut, quelle que soit sa fonction, quel que soit son profil, cet autre, indispensable pour le dire vrai de soi-même, a, ou plutôt doit avoir, pour être effectivement, pour être efficacement, le partenaire du dire vrai sur soi doit donc avoir une certaine qualification. Et cette qualification n'est pas comme dans la culture chrétienne avec le confesseur ou le directeur de conscience. Une qualification donnée par l'institution et se rapportant à la possession et à l'exercice certains pouvoirs spirituels spécifiques, Ce n'est pas non plus, comme dans la culture moderne, une qualification institutionnelle garantissant un certain savoir, psychologie, psychiatrique, psychanalytique, etc. La qualification nécessaire à ce personnage incertain, un peu brumeux et flottant, cette qualification, c'est une certaine qualité, une certaine pratique, une certaine manière de dire qui est précisément appelée la parésia. La parésia ou le franc-parler. Sans doute cette notion de parésia, de franc-parler, qui est constitutive du personnage, de cet autre, indispensable pour que moi je puisse dire le vrai sur moi-même, cette notion, bien sûr, est devenue maintenant pour nous assez difficile à ressaisir. Mais enfin, elle a tout de même laissé beaucoup de traces dans les textes latins et grecs. Elle a laissé des traces, d'abord évidemment à travers l'occurrence assez fréquente du mot, à travers aussi des références qui sont faites à cette notion, même lorsque le mot n'est pas employé. On en trouvera beaucoup d'exemples, par exemple, chez Sénèque, où la pratique de la parésia est fort bien cernée par tout un tas de descriptions, de caractérisations, sans que le mot soit pratiquement employé, ne serait-ce que pour la raison que les Latins ont eu une certaine difficulté à traduire ce mot même de parésia. On trouve aussi, en dehors de ces occurrences du mot ou des références qui sont faites à la notion, on trouve un certain nombre de textes qui sont plus ou moins complètement consacrés à la notion de parésia. Il y a le texte malheureusement en grande partie perdu de Philodème, de l'épicurien Philodème au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui avait écrit un Périparésias. Mais il y a alors le traité de Plutarque sur la flatterie, qui est tout entier une analyse de la parésia, ou plutôt de ces deux pratiques opposées, conflictuelles, que sont la flatterie d'une part et la parésia, le franc-parler de l'autre. Où vous avez le texte de Galien, auquel je faisais allusion tout à l'heure, le texte de Galien sur la cure des erreurs et des passions, où tout un développement est consacré à la parésia et au choix de celui qui est justement qualifié comme pouvant user de ce franc-parler et devant user de ce franc-parler pour que l'individu puisse à son tour dire la vérité sur lui-même et se constituer comme sujet disant la vérité sur lui-même. C'est donc ainsi que j'ai été conduit à m'arrêter à cette notion de parésia comme élément constitutif du dire vrai sur soi, ou plus précisément, comme élément qualifiant l'autre qui est nécessaire dans le jeu et l'obligation de dire vrai sur soi. Alors, j'ai entrepris l'an dernier, vous vous souvenez peut-être, l'analyse de ce franc-parler, de la pratique de la parésia et du personnage de celui qui est capable d'user de la parésia et qui s'appelle, le mot apparaît plus tardivement, le parésiaste, le parésiastès. La parésia et le parésiastès, leur étude dans la culture de soi, au cours de l'Antiquité, leur étude est évidemment une sorte de préhistoire de ces pratiques qui se sont organisées et développées par la suite autour de quelques couples célèbres, le pénitent et son confesseur, le dirigé et le directeur de conscience, le malade et le psychiatre, le patient et le psychanalyste, etc. C'est bien cette préhistoire, en un sens, que j'ai essayé de faire. Seulement voilà, en étudiant dans cette perspective, comme préhistoire de ces couples célèbres, en étudiant cette pratique parésiastique, je me suis aperçu à nouveau de quelque chose qui m'a un peu surpris et que je n'avais pas prévu. Aussi importante que soit cette notion de parésia et cette pratique de la parésia dans le domaine de la direction de conscience, du guidage spirituel, du conseil d'âme, aussi importante que soit cette notion, surtout dans la littérature hellénistique et romaine, il est évident, on ne peut pas ne pas reconnaître que son origine est ailleurs, et que ce n'est pas essentiellement, fondamentalement, ce n'est pas premièrement dans cette pratique du guidage spirituel que l'on voit apparaître la notion de la parésia. La notion de parésia, et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer l'an dernier, la notion de parésia est d'abord, fondamentalement, une notion politique. Et l'analyse de cette parésia comme notion politique, comme concept politique, évidemment, cette analyse m'éloignait un peu de ce qui était mon projet immédiat, l'histoire ancienne des pratiques du dire vrai sur soi-même. Mais d'un autre côté, cet inconvénient se trouvait compensé par le fait que, en reprenant l'analyse, ou en entreprenant l'analyse de la parésia dans le champ des pratiques politiques, eh bien, je me rapprochais un peu d'un thème, après tout, qui avait été constamment présent dans cette analyse que j'avais essayé des rapports entre sujet et vérité. Je me rapprochais d'un thème qui était celui des relations de pouvoir et de leur rôle dans le jeu entre le sujet et la vérité, avec la notion de parésia. Enraciné originairement dans la pratique politique, et vous vous souvenez, dans la problématisation de la démocratie, puis dérivé ensuite vers la sphère de l'éthique personnelle et de la constitution du sujet moral, eh bien, je crois qu'avec cette notion de parésia, on a la possibilité, et c'est pour cela que je m'y suis intéressé et que je m'y suis arrêté et que je m'y arrête encore. Je crois qu'avec cette notion de parésia, donc à enracinement politique et à dérivation morale, si vous voulez, pour dire les choses très schématiquement, avec cette notion, on a, je crois, la possibilité de poser la question du sujet et de la vérité du point de vue de la pratique de ce qu'on peut appeler le gouvernement de soi-même et des autres. Et on rejoint ainsi le thème du gouvernement que j'avais étudié il y a plusieurs années. Il me semble qu'en examinant à peu près la notion de parésia, on peut voir se nouer ensemble l'analyse des modes de véridiction, l'étude des techniques de gouvernementalité et le repérage des formes de pratique de soi. L'articulation entre les modes de véridiction, les techniques de gouvernementalité et les pratiques de soi, c'est au fond ce que j'ai toujours essayé de faire. Et vous voyez que dans la mesure où il s'agit d'analyser les rapports entre modes de véridiction, techniques de gouvernementalité et formes de pratique de soi, vous voyez que la présentation de pareilles recherches comme une tentative pour réduire le savoir au pouvoir, pour faire du savoir le masque du pouvoir dans des structures où le sujet n'a pas de place, la présentation sous cette forme de ces dites recherches ne peut être qu'une pure et simple caricature. Il s'agit au contraire, faisant cela, de l'analyse des relations complexes entre trois éléments distincts qui ne se réduisent pas les uns aux autres, ne s'absorbent pas les uns les autres, mais dont les rapports sont constitutifs des uns et des autres. Ces trois éléments sont les savoirs étudiés dans la spécificité de leur véridiction, les relations de pouvoir étudiées non pas comme l'émanation d'un pouvoir substantiel et envahissant, mais des relations de pouvoir étudiées dans les procédures par lesquelles la conduite des hommes est gouvernée, et enfin les modes de constitution du sujet à travers les pratiques de soi. C'est en opérant ce triple déplacement théorique du thème de la connaissance vers celui de la véridiction, des thèmes de la domination vers celui de la gouvernementalité, du thème de l'individu vers celui des pratiques de soi, qu'on peut, me semble-t-il, étudier sans jamais les réduire les unes aux autres, l'un à l'autre, les uns aux autres, pardon, les rapports entre vérité, pouvoir et sujet. Bon. Bien maintenant, après avoir rappelé cette trajectoire générale, je voudrais rappeler brièvement quelques-uns des éléments essentiels qui caractérisent la parésia et le rôle parésiastique. Très brièvement, et encore une fois pour ceux qui n'étaient pas là, je vais revenir sur des choses déjà dites pendant quelques minutes. Pardon pour ceux donc qui réentendront cela, et je voudrais ensuite, le plus rapidement possible, passer à une autre façon d'envisager cette même notion de parésia. Bon, vous vous souvenez que la parésia, étymologiquement, c'est l'activité qui consiste à tout dire, panrema, parésia zeistai, c'est tout dire, et le parésia stai, c'est celui qui dit tout. Ainsi, titre d'exemple, dans le discours de Démosthène sur l'ambassade, au paragraphe 237. Démosthène dit « Il est nécessaire de parler avec Parésia sans reculer devant rien, sans rien cacher. » De même, dans la première Philippique, il reprend exactement le même terme et il dit « Je vais vous exposer ma pensée sans rien dissimuler. » Le Parésia, c'est celui qui dit tout. Enfin, il faut immédiatement préciser. Parce que ce mot de Parésia, vous vous en souvenez, peut être employé avec de valeur. Peut être employé avec une valeur péjorative. Et à ce moment-là, la parésia, on trouve cette valeur péjorative, je crois, pour la première fois chez Aristophane, et ensuite on le trouve très couramment jusque dans la littérature chrétienne, employée avec une valeur péjorative, la parésia consiste bien à dire tout, tout en ce sens que l'on dit n'importe quoi. N'importe quoi de ce qui se passe dans l'esprit, n'importe quoi qui peut être utile à la cause qu'on défend, n'importe quoi qui peut servir la passion ou l'intérêt qui anime celui qui parle, etc. Le parésiaste devient alors et apparaît alors comme le bavard impénitent, comme celui qui ne sait pas se retenir, ou en tout cas comme celui qui n'est pas capable d'indexer son discours à un principe de rationalité et un principe de vérité. Vous avez de cet usage péjoratif, de la parésia comme le tout dire, dire n'importe quoi, dire ce qui vous passe à l'esprit, dire ce qui vous passe à l'esprit sans vous référer à aucun principe de raison ou de vérité. Vous en trouvez par exemple, vous en trouvez un exemple dans Isocrate, dans le discours appelé Busiris, au paragraphe 40, qui est je crois un des derniers, où il est question, Isocrate dit qu'il ne faut pas tout dire au sujet des dieux, à la différence des poètes qui leur ont prêté absolument n'importe quoi, n'importe quelle qualité ou défaut. De la même façon, dans la République au livre 8, je vous donnerai la référence plus exacte tout à l'heure parce que je reviendrai dans ce texte, au livre 8, vous voyez la description de la cité démocratique, de la mauvaise cité démocratique, celle qui est toute bariolée, celle qui est toute disloquée, dispersée entre des intérêts différents, des passions différentes, des individus qui ne s'entendent pas. Cette mauvaise cité démocratique pratique la parésia, chacun peut dire n'importe quoi. Mais le mot de parésia est employé aussi avec une valeur positive, et à ce moment-là, la parésia consiste à dire, sans dissimulation ni réserve, ni clause de style, ni ornement rhétorique qui pourrait la chiffrer ou la masquer, à dire la vérité. Le tout dire est à ce moment-là dire la vérité sans rien en cacher de cette vérité ou sans la cacher par quoi que ce soit. C'est ainsi que dans la seconde philippique, Démosthène dit qu'il ne veut pas parler sans raison, à la différence des mauvais parésiastes qui disent n'importe quoi et n'indexent pas leur discours à la raison, il ne veut pas parler sans raison, il ne veut pas en venir aux injures et rendre coup pour coup, vous savez ces fameuses disputes où on dit n'importe quoi pourvu que ça puisse desservir l'adversaire et être utile à votre propre cause, il ne veut pas faire cela, il veut au contraire, dit-il, meta parésias, avec de la parésia, il veut dire le vrai, talépé, les choses vraies. Et il ajoute, je ne dissimulerai rien. Huc apo crupsomai. Ne rien cacher, dire les choses vraies, c'est pratiquer la parésia. Bon, donc c'est le tout dire, mais le tout dire indexé à la vérité. C'est le tout dire de la vérité, c'est le ne rien cacher de la vérité, c'est le dire la vérité sans la masquer par quoi que ce soit. Mais je crois que ça ne suffit pas pour caractériser et définir cette notion de parésia. En effet, pour qu'on puisse parler de parésia au sens positif du terme, laissons de côté maintenant les valeurs négatives du terme. Pour que l'on puisse parler de parésia au sens positif du terme, il faut, outre donc la règle du tout dire et du tout dire de la vérité, il faut deux conditions supplémentaires. Il faut d'abord, pour que l'on puisse parler de parésia, que cette vérité constitue bien l'opinion personnelle de celui qui parle. Il faut, et c'est en cela que celui qui dit la vérité sera un parésiaste, non seulement qu'il se trouve dire la vérité, ou qu'il la dise du haut des lèvres, mais il faut qu'il la dise comme étant ce qu'il pense. Le parésiaste donne son opinion, le parésiaste dit ce qu'il pense, le parésia signe en quelque sorte lui-même la vérité qu'il énonce, il se lie à cette vérité. Et il s'oblige par conséquent à elle et par elle. Mais deuxièmement, ce n'est pas suffisant, car après tout, on pourrait bien dire qu'un professeur, un grammairien, un géomètre peuvent dire sur ce qu'ils enseignent, sur la grammaire ou la géométrie, une vérité, et une vérité à laquelle ils croient, une vérité qu'ils pensent, et pourtant on ne dira pas que c'est là de la parésia. Et on ne dira pas que le géomètre ou le grammairien, enseignant ces vérités auxquelles ils croient, sont des parésiastes. Pour qu'il y ait parésiaste, vous vous souvenez, j'y ai assez insisté l'an dernier, il faut que cette vérité que le sujet parlant marque comme étant son opinion, comme étant sa pensée, comme étant sa croyance, il faut que, disant cela, il prenne un certain risque qui concerne la relation même qu'il a avec celui auquel il s'adresse. Il faut, pour qu'il y ait parésia, qu'en disant la vérité, on ouvre, on instaure et on affronte le risque de blesser l'autre, d'irriter l'autre, de le mettre en colère et de susciter de sa part un certain nombre de conduites qui peuvent aller jusqu'à la plus extrême violence. C'est donc la vérité dans le risque de la violence. Exemple, Démosthène dans la première Philippique, après avoir dit qu'il parle avec parésia, avec franchise, dit, je sais bien que en usant cette franchise, j'ignore ce qui suivra pour moi de ces choses que je viens de dire. En somme, pour qu'il y ait parésia, il faut que dans l'acte de vérité, il y ait, premièrement, manifestation d'un lien fondamental entre la vérité dite et la pensée de celui qui l'a dit, il faut qu'il y ait, d'autre part, mise en question, donc instauration d'un lien entre la vérité dite et celui qui l'a dit, et d'autre part, mise en question du lien entre les deux interlocuteurs, entre celui qui dit la vérité et celui auquel cette vérité est adressée. D'où ce nouveau trait de la parésia, c'est qu'elle implique une certaine forme de courage, courage dont la forme minimale consiste en ceci, que le parésiaste risque de défaire, de dénouer la relation à l'autre, qui a rendu possible précisément son discours, et en quelque sorte le parésiaste risque toujours de saper cette relation qui est la condition de possibilité de son discours. On le verra très clairement par exemple dans la parésia guidage de conscience, où il ne peut y avoir guidage de conscience que s'il y a amitié, mais où l'usage de la vérité dans ce guidage de conscience risque précisément de mettre en question et de briser la relation d'amitié qui a rendu possible pourtant ce discours de vérité. Mais ce courage peut prendre aussi, dans un certain nombre de cas, une forme maximale, lorsque, pour dire la vérité, eh bien, il faudra accepter non seulement de mettre en question la relation personnelle, amicale qu'on peut avoir avec celui qu'on parle, mais il peut arriver même qu'on soit amené à risquer sa propre vie. C'est bien ainsi qu'on a vu Platon lorsqu'il est allé voir Denis, ceci est raconté par Plutarque, qu'il s'agit à ce moment-là de Denis l'Ancien. Platon dit à Denis l'Ancien un certain nombre de choses qui vraies et qui blessent tellement le tyran qu'il conçoit le projet, qu'il ne mettra pas d'ailleurs à exécution, de tuer Platon. Mais Platon, au fond, le savait et il a accepté ce risque. À la limite, donc, la parésia risque non seulement la relation qui est établie entre celui qui parle et celui auquel est adressée la vérité, mais la parésia risque l'existence même de celui qui parle, si du moins son interlocuteur a un pouvoir sur lui et s'il ne peut pas supporter la vérité qu'on lui dit. Ce lien entre la parésia et le courage est fort bien indiqué par Aristote lorsque dans l'éthique à Nicomaque, il lit là ce qu'il appelle la mégalopsychia, la grandeur d'âme, à la pratique de la parésia. Seulement, et c'est là le dernier trait que je voudrais brièvement rappeler, c'est que là où la parésia peut s'organiser, se développer et se stabiliser, c'est dans ce qu'on pourrait appeler un jeu parésiastique. Car si le parésiaste, eh bien, celui qui prend le risque de mettre en question sa relation à l'autre et même sa propre existence en disant la vérité, toute la vérité, envers et contre tout, d'un autre côté, celui à qui cette vérité est dite, qu'il s'agisse du peuple assemblé et qui délibère sur les meilleures décisions à prendre pour la cité, qu'il s'agisse du prince, du tyran ou du roi auquel il faut donner des conseils, qu'il s'agisse de l'ami que l'on guide, celui-là, peuple, roi, ami, celui-là, s'il veut jouer le rôle que lui propose le parésiaste en lui disant la vérité, eh bien, il faut qu'il l'accepte, aussi blessante que soit sa vérité, pour les opinions reçues dans l'assemblée, pour les passions ou les intérêts du prince, pour l'ignorance ou l'aveuglement de l'individu. Le peuple, le prince, l'individu, doivent accepter le jeu de la parésia, ils doivent le jouer eux-mêmes et reconnaître que celui qui prend le risque de leur dire la vérité, celui-là même, doit être écouté. Et c'est ainsi que s'établira le vrai jeu de la parésia, à partir de cette espèce de pacte qui fait que si le parésiaste montre son courage en disant la vérité envers et contre tout, eh bien, celui auquel cette parésia est intéressée devra montrer sa grandeur d'âme aussi en acceptant qu'on lui dise la vérité. Et c'est cette espèce de pacte entre celui qui prend le risque de dire la vérité et celui qui accepte de l'entendre, qui est au cœur de ce qu'on pourrait appeler le jeu parésiastique. La parésia, c'est donc, en deux mots, le courage de la vérité, le courage de la vérité chez celui qui parle et qui prend le risque de dire, en dépit de tout, toute la vérité qu'il pense, mais c'est aussi le courage du côté de l'interlocuteur qui accepte de recevoir comme vraie la vérité blessante qu'il entend. Vous voyez alors comment la pratique de la parésia s'oppose et s'oppose terme à terme à ce qui est en somme l'art de la rhétorique. Pour dire les choses très schématiquement, on peut dire ceci, c'est que la rhétorique telle qu'elle était définie et pratiquée dans l'Antiquité, la rhétorique c'est au fond une technique qui concerne la manière de dire les choses, mais qui ne détermine aucunement les rapports entre celui qui parle et ce qu'il dit. Autrement dit, la rhétorique, c'est un art, c'est une technique, c'est un ensemble de procédés qui permettent à celui qui parle de dire quelque chose qui n'est peut-être pas du tout ce qu'il pense, mais qui va avoir pour effet de produire chez celui qui parle un certain nombre de convictions, qui va induire un certain nombre de conduites, qui vont établir un certain nombre de croyances. Autrement dit, la rhétorique n'implique aucun lien de l'ordre de la croyance entre celui qui parle et ce qu'il dit. Le bon rhétoricien, le bon rhéteur peut parfaitement dire, et il est l'homme qui est capable de dire tout autre chose que ce qu'il sait, tout autre chose que ce qu'il croit, tout autre chose que ce qu'il pense, mais de le dire de telle manière qu'au bout du compte, ce qu'il leur a dit, et qui n'est ni ce qu'il croit, ni ce qu'il pense, ni ce qu'il sait, sera, deviendra ce que pense, ce que croit, et ce que croit savoir, ce auquel il l'a adressé. Autrement dit, dans la rhétorique, le lien est ouvert, ou plutôt le lien est dénoué, entre celui qui parle et ce qu'il dit, mais la rhétorique a pour effet d'établir un lien contraignant entre la chose qui est dite et celui ou ceux auxquels elle est adressée. Eh bien, vous voyez que, là, de ce point de vue-là, la rhétorique est exactement à l'opposé de la parésia. L'instauration forte, manifeste, évidente, entre celui qui parle et ce qu'il dit, puisqu'il doit manifester sa pensée. Et qu'il n'est pas question dans la parésia que l'on dise autre chose que ce qu'on pense. Donc, lien fort, lien nécessaire, lien constitutif de la parésia entre celui qui parle et ce qu'il dit. Et en revanche, la parésia ouvre sous la forme du risque, le lien entre celui qui parle et celui auquel on s'adresse, car après tout, celui auquel on s'adresse peut toujours ne pas recevoir ce qu'on dit. Il peut s'en blesser, il peut le rejeter, et il peut finalement punir ou se venger de celui qui lui a dit la vérité. Donc, la rhétorique n'implique pas de lien entre celui qui parle et ce qui est dit, mais vise à instaurer un lien contraignant, un lien de pouvoir entre ce qui est dit et celui auquel on l'adresse. La parésia, au contraire, implique un lien fort et constituant entre celui qui parle et ce qui se dit, et ouvre par l'effet même de la vérité, par l'effet de blessure de la vérité, la possibilité d'une rupture de lien entre celui qui parle et celui auquel il s'est adressé. Disons très schématiquement que le rhéteur est, ou en tout cas peut parfaitement être, un menteur efficace qui contraint les autres. Le parésias, au contraire, sera le diseur courageux d'une vérité où il risque lui-même et sa relation avec l'autre. Bon, pardon, tout ceci, c'était des choses que je vous avais dit l'an dernier. Je voudrais maintenant avancer un petit peu et faire aussitôt remarquer qu'il ne faudrait pas croire que la parésia est une sorte de technique bien définie, équilibrant la rhétorique et symétrique par rapport à elle. Il ne faudrait pas croire qu'il y a eu dans l'Antiquité, en face du rhéteur, qui était un professionnel, qui était un technicien, en face de la rhétorique en tout cas, qui était une technique et demandait un apprentissage, un parésiaste et une parésia qui seraient aussi... Je crois que vous êtes trompé. Qu'est-ce que c'est au moins du Michael Jackson. Tant pis. Bon, le parésiaste n'est pas un professionnel et la parésia est tout de même autre chose qu'une technique ou un métier, même s'il y a des aspects techniques dans la parésia. Parésia, ce n'est pas un métier, c'est quelque chose de plus difficile à cerner, c'est une attitude, c'est une manière d'être qui s'apparente à la vertu, c'est une manière de faire, ce sont des procédés, ce sont des moyens réunis en vue d'une fin, et par là, bien sûr, ça touche à la technique, mais c'est aussi un rôle qui est utile, précieux, indispensable pour la cité et pour les individus. Je dirais que la parésia, plutôt que d'une technique, comme la rhétorique, doit être caractérisée comme une modalité du dire vrai, et pour mieux la cerner, je crois qu'on peut l'opposer à d'autres modalités du dire vrai, d'autres modalités du dire vrai qui sont des modalités fondamentales que l'on peut trouver dans l'Antiquité, mais que l'on retrouverait sans doute plus ou moins déplacées, habillées, mises en forme de façon diverse dans d'autres sociétés et dans la nôtre aussi. Je crois que l'on peut définir, à partir de l'Antiquité et en prenant les choses dans la clarté justement où l'Antiquité nous les a laissées, quatre modalités fondamentales du dire vrai. Premièrement, le dire vrai de la prophétie. Et par là, je ne vais pas essayer de faire une analyse de ce que les prophètes disaient, analyse en quelque sorte des structures de ce qui est dit par le prophète, mais de ce qu'est, de la manière dont le prophète se constitue et est reconnu par les autres comme sujet disant la vérité. Eh bien, le prophète est évidemment, comme le parésiaste, bien sûr, quelqu'un qui dit vrai. Mais je crois que ce qui caractérise fondamentalement le dire vrai et la vérité, le dire vrai du prophète et la véridiction prophétique, c'est que le prophète est en posture de médiation. Le prophète, par définition, ne parle pas en son nom propre. Il parle pour une autre voix. Sa bouche sert d'intermédiaire à une voix qui parle d'ailleurs. Le prophète transmet une parole qui est en général la parole de Dieu et il articule et profère un discours qui n'est pas le sien. Il adresse aux hommes une vérité qui vient d'ailleurs. Je crois que le prophète est aussi intermédiaire en un autre sens, en ce sens que le prophète est en position d'intermédiaire entre le présent et le futur. Le prophète est celui qui dévoile ce que le temps, dérobe aux hommes et qu'aucun regard humain ne pourrait voir ou aucune oreille humaine ne pourrait entendre sans lui. C'est le second caractère de la posture d'intermédiaire du prophète. Mais je crois que le dire vrai prophétique est aussi intermédiaire en ceci. C'est que, d'une certaine façon, bien sûr, le prophète dévoile, il montre, il éclaire ce qui est caché aux hommes, mais d'un autre côté, ou plutôt en même temps, il ne dévoile pas sans être obscur, et il ne révèle pas sans envelopper ce qu'il dit dans une certaine forme, qui est la forme de l'énigme. Ce qui a pour conséquence que la prophétie ne donne au fond jamais de prescription univoque et claire, elle ne dit pas la vérité tout crûment et dans une pure et simple transparence, même lorsque le prophète dit ce qu'il faut faire. Si on n'est pas encore aveugle, il reste à questionner, à hésiter, il reste à interpréter. Or, précisément, la parésia s'oppose, terme à terme, à ces différents caractères du dire vrai prophétique. Le parésiaste s'oppose, vous le voyez bien, au prophète, dans la mesure où le prophète ne parle pas pour lui-même, mais parle au nom de quelqu'un d'autre et où il articule une voix qui n'est pas la sienne. Vous avez vu au contraire que le parésiaste, par définition, parle en son propre nom. Il est essentiel que ce soit son opinion. Il est essentiel que ce soit sa pensée et sa conviction qu'il formule. Il doit signer son propos. Sa franchise est à ce prix. Le prophète n'a pas à être franc, quand même il dit vrai. Deuxièmement, le parésiaste ne dit pas l'avenir. Certes, il révèle et il dévoile ce que l'aveuglement des hommes ne peut pas percevoir, mais il ne lève pas le voile sur le futur. Il lève le voile sur ce qui est. Il n'aide pas les hommes, le parésiaste, à franchir d'une certaine façon ce qui les sépare de leur avenir en fonction de la structure ontologique de l'être humain et du temps. Il les aide, le parésiaste, il les aide dans leur aveuglement, mais dans leur aveuglement sur ce qu'ils sont, les hommes, sur eux-mêmes, et comme conséquence, non d'une structure ontologique, mais de quelques fautes, ou distractions, ou dissipations morales, conséquence d'une inattention, d'une complaisance, d'une lâcheté. Et c'est là, dans ce jeu, entre l'être humain et son aveuglement, enraciné dans une inattention, une complaisance, une lâcheté, une distraction morale, c'est là que le parésiaste joue son rôle de dévoileur, très différent par conséquent, vous le voyez, du rôle de dévoileur qu'on trouve chez le prophète, qui lui se place au point où s'articule la finitude humaine et la structure du temps. Troisièmement, le parésiaste, là encore, par définition, ne parle pas par énigme, à la différence du prophète. Il dit au contraire les choses le plus clairement, le plus directement possible, sans aucun déguisement, sans aucun ornement rhétorique, de sorte que ses paroles peuvent devenir immédiatement, peuvent recevoir immédiatement une valeur prescriptive. Le parésiaste ne laisse rien à interpréter. Certes, il laisse quelque chose à faire. Il laisse à celui auquel il s'adresse la tâche, la rude tâche d'avoir le courage d'accepter cette vérité, de la reconnaître et d'en faire un principe de conduite, il laisse cette tâche morale, mais, à la différence du prophète, il ne laisse pas le devoir difficile d'interpréter. Deuxièmement, je crois que l'on peut opposer aussi la dire vrai parésiastique à un autre mode de dire vrai qui a été très important dans l'Antiquité, important pour la philosophie antique et plus important même sans doute que le dire vrai prophétique, c'est le dire vrai de la sagesse. Vous savez que le sage, et en ceci d'ailleurs il s'oppose au prophète dont on vient de parler à l'instant, à la différence du prophète, le sage parle en son nom, en son propre nom. Et s'il est vrai que cette sagesse a pu être inspirée au sage par un dieu, ou lui être transmise par une tradition, un enseignement plus ou moins ésotérique, il n'en reste pas moins que le sage est présent dans ce qu'il dit, il est présent dans son dire vrai. La sagesse qu'il formule, c'est bien sa propre sagesse. Le sage, dans ce qu'il dit, manifeste son mode d'être sage, et dans cette mesure, s'il a bien une certaine fonction d'intermédiaire entre la sagesse intemporelle et traditionnelle et celui auquel il s'adresse, il faut bien dire qu'il n'est pas simplement un porte-voix, comme peut l'être le prophète, il est lui-même un sage, et c'est son mode d'être sage, comme mode d'être personnel, qui le qualifie comme sage et qui le qualifie pour parler le discours de la sagesse. Dans cette mesure-là, présent qu'il est dans son discours sage et manifestant son mode d'être sage dans son discours sage, on peut dire qu'il est beaucoup plus proche du parésiaste qu'il ne l'est du prophète. Seulement, le sage, et c'est je crois ce qu'il caractérise, du moins à travers un certain nombre de traits qu'on peut relever dans les littératures anciennes, le sage tient sa sagesse dans une retraite, ou du moins dans une réserve qui est essentielle. Au fond, le sage, il est sage en lui-même et pour lui-même, et il n'a pas besoin de parler. Il n'est pas contraint à parler. Rien ne l'oblige à distribuer sa sagesse, à l'enseigner ou à la manifester. C'est ce qui explique que, si vous voulez, le sage est, je crois, structurellement silencieux. Et s'il ne parle, c'est que sollicité par les questions de quelqu'un ou encore par une situation d'urgence pour la cité. C'est ce qui explique aussi que ses réponses, et en cela alors il peut parfaitement s'apparenter au prophète et souvent imiter le prophète et parler comme lui, ses réponses peuvent parfaitement être énigmatiques et laisser ceux auxquels il s'adresse dans l'ignorance ou l'incertitude de ce que effectivement il a dit. Un autre caractère du dire vrai de la sagesse, c'est que la sagesse dit ce qui est, à la différence de ce qu'on trouve dans la prophétie, où vous savez, ce qui est dit, c'est ce qui sera. Le sage dit ce qui est, mais ce qui est, c'est-à-dire l'être du monde et des choses. Et si ce dire vrai de l'être du monde et des choses peut prendre la valeur de la prescription, ce n'est pas dans la forme d'un conseil lié à une conjoncture, mais dans la forme d'un principe général de conduite. Et je crois que ces caractères du sage, on peut parfaitement les lire et les redécouvrir dans un texte pourtant tardif, mais qui est un des plus riches en renseignements divers, c'est le texte de Diogène Laërce, dans lequel il fait le portrait d'Héraclite. Premièrement, Héraclite vit précisément dans une retraite essentielle, il se maintient dans le silence. Et Diogène Laërce rappelle à partir de quel moment et pourquoi s'est faite la rupture entre Héraclite et les Éphésiens. Eh bien, les Éphésiens avaient exilé Hermodore, un ami d'Héraclite, et ils avaient exilé Hermodore précisément parce que Hermodore était plus sage et meilleur qu'eux. Et les Éphésiens auraient dit: Nous voulons qu'il n'y ait personne parmi nous qui soit meilleur que nous. Et s'il y a parmi nous quelqu'un de meilleur que nous, eh bien, qu'il aille vivre ailleurs. Les Éphésiens ne supportent pas précisément la supériorité de celui qui dit vrai, ils chassent le parésiaste. Eh bien, s'ils ont chassé Hermodore, qui a été obligé de partir contraint forcé par cet exil dont les Éphésiens frappaient celui qui est capable de dire la vérité, eh bien Héraclite, lui, a répondu par une retraite volontaire. Puisque les Éphésiens ont puni de l'exil le meilleur d'entre eux, eh bien, dit-il, tous les autres qui valent moins que lui devraient être mis à mort, et puisqu'on ne les met pas à mort, eh bien c'est moi qui vais m'en aller. Et désormais, il refuse, alors qu'on le lui demandait, de donner des lois à la cité, car, dit-il, la cité est déjà dominée par une ponera politeia, ce n'est pas par une constitution, c'est par un mode de vie politique qui est mauvais. Et alors il se retire, et il va jouer, vous savez, image fameuse, il va jouer aux osselets avec les enfants, et à ceux qui s'indignent de voir cet homme jouer aux osselets avec des enfants, il répond: qu'avez-vous à vous étonner, vaut rien, cela ne vaut-il pas mieux que d'administrer la République avec vous, enfin de mener la vie politique avec vous, met humon politestai. et il se retire dans les montagnes en pratiquant le mépris des hommes, misanthropone, et quand on lui demandait pourquoi il se taisait, il répondait « Si je me tais, c'est pour que vous bavardiez ». Et Diogène Laërce rapporte que c'est dans cette retraite qu'il écrit son poème, non, son poème en termes volontairement obscurs, afin que seuls les gens capables puissent le dire et qu'on ne puisse le mépriser, lui, Héraclite, d'être lu par tout le monde et par n'importe qui. Bon. Eh bien, à ce rôle, à cette caractérisation du sage donc qui fondamentalement se tait, ne parle que quand il veut bien et ne parle que par énigme, eh bien, s'oppose le personnage et les caractères du parésiaste. Le parésiaste, lui, n'est pas quelqu'un qui se tient fondamentalement dans la réserve, au contraire. Son devoir, son obligation, sa charge, sa tâche, c'est de parler. Et il n'a pas le droit de se dérober à cette tâche. On le verra précisément avec Socrate. Socrate, qui le rappelle dans l'Apologie bien souvent, il a reçu du Dieu cette fonction d'aller interpeller les hommes, d'aller les prendre par la manche, d'aller leur poser des questions, et cette tâche, il ne l'abandonnera pas, même menacé par la mort. Il mènera sa tâche jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, dit-il. Alors que le sage se tient dans le silence et ne répond que parcimonieusement, le moins possible, aux questions qu'on peut lui poser, le parésiaste, lui, est l'indéfini, le permanent, l'insupportable interpellateur. Deuxièmement, alors que le sage est celui qui, précisément, sur fond de son silence essentiel, parle par énigme, le parésiaste, lui, doit parler aussi clairement que possible. Et enfin, le parésiaste, alors que le sage dit ce qui est, mais dans la forme de l'être même des choses et du monde, le parésiaste, lui, intervient, dit ce qui est, mais il dit ce qui est dans la singularité des individus et des situations et des conjonctures. Son rôle spécifique, ce n'est pas de dire l'être de la nature et des choses. On retrouvera perpétuellement dans l'analyse de la parésia cette opposition entre le savoir inutile qui dit l'être des choses et du monde, et puis le dire vrai du parésiaste qui s'applique toujours, met en question, se pointe vers des individus et des situations pour dire ce qu'ils sont en réalité, pour dire aux individus la vérité qui se cache, la vérité d'eux-mêmes qui se cache à leurs propres yeux, pour leur révéler leur situation actuelle, leur caractère, leurs défauts, la valeur de leur conduite et les conséquences éventuelles de la décision qu'il prendrait. Le parésiaste ne révèle pas à son interlocuteur ce qui est, il lui dévoile ou l'aide à reconnaître ce qu'il est. Enfin, troisième modalité du dire vrai que l'on peut opposer au dire vrai du parésiaste, c'est le dire vrai du professeur ou du technicien, le dire vrai de l'enseignement. Le prophète, le sage et celui qui enseigne. Bon, alors si vous voulez, parce que vous êtes peut-être un peu là, les uns d'entendre, les autres de ne pas entendre, les uns d'être assis, les autres d'être debout, moi de toute façon de parler, on s'arrête 5 ou 5 minutes, et puis on se retrouve tout à l'heure, d'accord? Et je tâcherai de terminer vers 11h15. Hein, alors, merci. Et ambiguïté. De la parésia toujours limitée des institutions. En effet, la salle 6 n'était pas sonorisée et n'est pas sonorisée et ne sera pas sonorisée. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, car on vous disait la vérité en disant que la salle 6 n'était pas sonorisée, ce qu'on ne vous a pas dit, et ce qu'on ne m'a pas dit non plus, c'est que la salle 5 l'était. ou en tout cas l'est à partir de maintenant. Alors, ceux d'entre vous qui en ont assez d'être debout ou assis par terre peuvent trouver dans la salle 5 un lieu de... où ils pourront s'asseoir, lire le journal et bavarder tranquillement. Voilà, alors merci et pardon. Et donc, désormais, si je comprends bien, tous les mercredis, la salle 5 sera couplée avec celle-ci. Ça sera donc plus la 8 et la 6, mais la 8 et la 5. Voilà. pardon de ce qui s'est passé. Bon, alors j'avais essayé de repérer donc les relations et différences entre le parésias d'une part, puis alors le prophète, ou disons en tout cas entre la véridiction, le mode de dire vrai parésiastique et le mode du dire vrai prophétique. Deuxièmement, le mode du dire vrai de la sagesse, du sage. Et maintenant, alors je voudrais, comme ça, très, très schématiquement, très allusivement, indiquer quelques-uns des rapports que l'on peut apercevoir entre la véridiction parésiastique et la véridiction, alors, j'ai dit tout à l'heure de celui qui enseigne, j'aimerais mieux de dire, au fond, du technicien. Je veux dire de ce personnage qui est souvent évoqué par Platon dans les dialogues socratiques, comme les autres, personnage comme le médecin, le musicien, le cordonnier, le menuisier, le maître d'armes, etc., le gymnasiarque, enfin que sais-je, et qui tous sont des gens qui possèdent un savoir caractérisé comme une techné, comme un savoir-faire, c'est-à-dire impliquant à la fois des connaissances, mais des connaissances qui prennent corps dans une pratique et qui implique pour leur apprentissage non seulement des connaissances théoriques, mais tout un exercice, toute une askésis ou toute une mêlette, qui donc détiennent ce savoir, et puis le professe et sont capables de l'enseigner aux autres. Eh bien, ce technicien, celui qui détient une techné, qui l'a apprise et qui est capable de l'enseigner, ce technicien, et en cela il va se différencier bien entendu du sage, est quelqu'un qui est tenu à dire le vrai, ou en tout cas à formuler ce qu'il sait, et à le transmettre aux autres. Après tout, ce technicien, il a un certain devoir de parole, il est tenu d'une certaine manière à dire le savoir qu'il possède et la vérité qu'il connaît, car ce savoir qu'il possède et la vérité qu'il connaît, eh bien, sont liés à toute une traditionnalité. Lui-même, ce technicien, cet homme de la techné, il n'aurait évidemment rien pu apprendre et il ne saurait aujourd'hui rien du tout, ou très peu de choses, s'il n'y avait pas eu avant lui quelqu'un comme lui, technites comme lui, technicien comme lui, et qui le lui a enseigné, et dont il a été l'élève, et qui a été pour lui son maître. Et tout comme il n'aurait rien appris si quelqu'un ne lui avait pas dit ce qu'il savait avant lui, de la même façon, eh bien, pour que son savoir ne meure pas après lui, il va bien falloir qu'il le transmette. Donc vous voyez que l'on a dans cette idée de celui qui possède un savoir de techné, et qu'il a reçu et qu'il va le transmettre, on trouve bien ce principe d'une obligation de parler qu'on ne trouve pas chez le sage, mais qu'on trouve chez le parésiaste. Mais vous voyez, et c'est en cela alors que ce professeur, si vous voulez, cet homme de la techné, homme du savoir-faire et homme de l'enseignement, ce qui fait sa différence avec le parésiaste, c'est que dans cette transmission du savoir, dans ce dire vrai qu'il a lui-même reçu et qu'il va transmettre, on voit bien qu'il ne prend aucun risque. Tout le monde sait, et moi le premier, que nul n'a besoin d'être courageux pour enseigner. Au contraire, celui qui enseigne, nous, ou en tout cas espère, ou désire parfois, nouer entre lui-même et celui ou ceux qui l'écoutent un lien qui est celui du savoir commun, un lien qui est celui de l'héritage, un lien qui est celui de la tradition, un lien aussi qui est celui, qui peut être celui, de la reconnaissance personnelle ou de l'amitié, en tout cas, dans ce dire vrai, une filiation s'établit dans l'ordre du savoir. Or, on a vu que, au contraire, le parésiaste est celui qui risque, qui prend un risque. Il risque la relation qu'il a avec celui auquel il s'adresse. Et il peut, en disant la vérité, loin d'établir au contraire ce lien positif de savoir commun, d'héritage, de filiation, de reconnaissance, d'amitié, il peut au contraire provoquer sa colère, se brouiller avec l'ennemi, susciter l'hostilité de la part de la cité, amener la vengeance et la punition de la part du roi du souverain, si c'est un mauvais souverain et s'il est tyrannique. Et dans ce risque, on a vu qu'il peut y aller jusque de sa vie, puisqu'il peut bien payer de son existence la vérité qu'il a dite. Alors qu'au contraire, dans le cas de du dire vrai de l'enseignement et de la technique, l'enseignement assure au contraire la survie, ou du moins la survie du savoir, alors que la parésia, elle, risque la mort de celui qui la pratique. Le dire vrai du technicien et du professeur unis et lient, le dire vrai du parésiaste prend le risque de l'hostilité, de la guerre, de la haine et de la mort. Et s'il est vrai que la vérité du parésiaste, si elle est reçue, si l'autre en face de lui accepte le pacte de la parésia et joue le jeu de la parésia, s'il est vrai à ce moment-là que la vérité du parésiaste peut unir et réconcilier, ce n'est qu'après avoir ouvert un moment, mais un moment essentiel, un moment fondamental, un moment structurellement nécessaire, la possibilité de la haine et du déchirement. Disons donc très schématiquement que le parésiaste n'est pas le prophète, n'est pas le prophète qui dit la vérité en dévoilant au nom d'un autre et énigmatiquement le destin. Le parésiaste n'est pas un sage qui, au nom de la sagesse, dit quand il veut et sur fond de son propre silence l'être et la nature la fusisse. Le parésiaste n'est pas le professeur, l'enseignant, l'homme de savoir-faire qui dit au nom d'une tradition la techné. Il ne dit donc ni le destin, ni l'être, ni la techné. Au contraire, le parésiaste, dans la mesure où il prend le risque d'ouvrir la guerre avec les autres, au lieu de solidifier, comme le professeur, le lien traditionnel, en énonçant en son propre nom et en toute clarté, au lieu de faire comme le prophète qui parle au nom de quelqu'un d'autre, en disant enfin la vérité de ce qui est, mais non pas de ce qui est, non pas la vérité de l'être et de la nature des choses, mais la vérité de ce qui est dans la forme singulière des individus et des situations, eh bien, le parésiaste est celui qui met en jeu, je crois, le discours vrai de ce qu'on appelle, de ce que les Grecs appelaient l'éthos. Le destin a une modalité de véridiction que l'on trouve dans la prophétie. L'être a une modalité de véridiction que l'on trouve chez le sage, la techné à une modalité de véridiction que l'on trouve chez le technicien, le professeur, l'enseignant, l'homme du savoir-faire, et enfin l'éthos a sa véridiction dans la parole du parésiaste et dans le jeu de la parésia. Prophétie, sagesse, enseignement, parésia, ce sont là, je crois, trois modes de véridiction qui, d'une part, impliquent des personnages différents, deuxièmement, appelle des modes de parole différents, et troisièmement, se réfère à des domaines différents, destin, être, techné, éthos. En faisant ce repérage, vous voyez bien que je ne définis pas, ou en tout cas je ne définis pas premièrement, essentiellement, des types sociaux historiquement distincts. Je ne veux pas dire qu'il y avait quatre professions ou quatre types sociaux dans la civilisation antique, le prophète, le sage, le professeur, le parésiaste. Certes, il arrive qu'on puisse isoler ces types sociaux assez nettement. Autrement dit, il peut arriver que ces quatre grandes modalités du dire vrai, le prophétique, le sage, enfin le dire vrai prophétique, le dire vrai sage, le dire vrai technicien et le dire vrai éthique ou parésiastique, il arrive que ces quatre modes de dire vrai correspondent soit à des institutions, soit à des pratiques, soit à des personnages que l'on peut assez bien distinguer. Et je crois, c'est une des raisons pour laquelle l'exemple de l'Antiquité est privilégié, c'est qu'il permet justement de débroussailler en quelque sorte ces différentes formes de dire vrai, ces différents modes de véridiction, parce que dans l'Antiquité, on les trouve assez bien distingués et incarnés, mis en forme, presque institutionnalisés, dans des formes différentes. Vous avez la fonction prophétique qui était définie et institutionnalisée assez nettement. Le personnage du sage était lui aussi assez bien isolé. Vous voyez le portrait d'Héraclite. Le professeur, le technicien, l'homme de la techné, vous le voyez apparaître très nettement dans les dialogues socratiques. Et les sophistes étaient précisément ces espèces de techniciens et professeurs à fonction, qui se voulaient une fonction universelle. Quant au parésiaste, eh bien, le parésiaste, il apparaît d'une façon très nette avec son profil propre, nous y reviendrons la prochaine fois, avec Socrate et ensuite avec Diogène et toute une série de philosophes. Mais aussi distinct que soit ces groupes, et même s'il est vrai qu'à certains moments, dans certaines sociétés ou dans certaines civilisations, vous voyez ces quatre fonctions prises en charge en quelque sorte par des institutions ou des personnages très nettement différents, il faut bien remarquer que ce ne sont pas fondamentalement des personnages ou des rôles sociaux. Je tiens à cela, je voudrais y insister, ce sont essentiellement des modes de véridiction, et il arrive, et il arrivera très souvent, et il arrivera plus souvent encore que l'inverse, que ces modes de véridiction soient combinés les uns avec les autres, et qu'on les retrouve dans des formes de discours, dans des types institutionnels, dans des personnages sociaux qui les mêlent les uns, les unes, ces modes de véridiction qui les mêlent les uns avec les autres. Déjà, regardez avec Socrate, vous voyez comment on retrouve des éléments, Socrate compose des éléments qui sont de l'ordre de la prophétie, qui sont de l'ordre de la sagesse, qui sont de l'ordre de l'enseignement et qui sont de l'ordre de la parésia. Socrate, c'est donc le parésiaste, mais vous vous souvenez qu'il a reçu sa fonction de parésiaste, il a reçu la mission d'aller interpeller les gens, les tirer par la manche et leur dire « occupe-toi un peu de toi-même ». Il a reçu cette mission de qui ? Eh bien, du dieu de Delphes et de l'instance prophétique qui a rendu, vous le savez, ce verdict quand on est venu lui demander quel est le plus sage des hommes de la Grèce, et qu'il a répondu, quel est le plus savant des hommes de la Grèce, pardon, et qu'il a répondu, c'est Socrate. Et c'est pour honorer cette prophétie, c'est pour honorer aussi le dieu de Delphes posant le principe « connais-toi sur toi-même » que Socrate a commencé sa mission. Donc sa fonction de parésiaste n'est pas sans quelque rapport avec cette fonction prophétique dont il se distingue pourtant. Également, Socrate a des relations avec la sagesse, tout parésiaste qu'il soit, et cette relation avec la sagesse, elle est marquée évidemment par plusieurs traits qui concernent sa vertu personnelle, sa maîtrise de soi, son abstention à l'égard de tous les plaisirs, son endurance devant toute souffrance, sa capacité à s'abstraire du monde. Souvenez-vous la scène fameuse de Socrate devenu insensible et ne percevant pas, restant immobile et ne percevant pas le froid pendant qu'il était soldat et qu'il faisait la guerre. Bon, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a chez Socrate ce trait, alors dans un sens plus important encore, de sagesse, qui est malgré tout un certain silence, car Socrate ne parle pas, il ne tient pas de discours, il ne dit pas spontanément ce qu'il sait. Au contraire, il s'affirme comme étant celui qui ne sait pas et qui, ne sachant pas, et sachant simplement qu'il ne sait pas, eh bien, va se tenir dans la réserve et dans le silence, se contentant d'interroger. L'interrogation est bien d'une certaine manière, si vous voulez, de composer avec le devoir de parésia, c'est-à-dire le devoir d'interpeller et de parler, la réserve essentielle au sage qui lui se tait. Seulement le sage se tait parce qu'il sait et qu'il a le droit de ne pas dire son savoir, alors que Socrate va se taire en disant qu'il ne sait pas et en allant interroger tout le monde et n'importe qui à la manière du parésiaste. Donc vous voyez là encore, les traits parésiastiques se combinent avec les traits de sagesse. Et enfin, bien sûr, relation avec le technicien, avec l'enseignant, le problème socratique, c'est bien comment enseigner la vertu et comment donner aux jeunes gens les qualités et les connaissances qui sont nécessaires, que ce soit pour bien vivre, que ce soit aussi pour gouverner comme il faut la cité. Souvenez-vous d'Alcibiade, souvenez-vous aussi, nous y reviendrons la prochaine fois, de la fin du Laquès, lorsque Socrate accepte de recevoir, pour leur apprendre à s'occuper d'eux-mêmes, les fils de... Pardon, j'ai oublié le nom des deux vieux messieurs qui ont décidé à la fin du Laquès de... comment ça s'appelle ? Lysimaque et... Bon, on va en venir à la prochaine fois, pardon. Socrate, c'est le Parthiaste, mais encore une fois, en relation permanente, essentielle, avec la fonction, la bénédiction prophétique, la bénédiction de sagesse et la bénédiction technicienne de l'enseignement. Donc, vous voyez beaucoup plus que les personnages, la prophétie, la sagesse, l'enseignement, la technique et la parésia sont à considérer comme des modes fondamentaux de dire vrai. Il y a la modalité qui dit énigmatiquement ce qu'il en est de ce qui se dérobe à tout être humain. Il y a la modalité du dire vrai qui dit apodictiquement ce qui en est de l'être et de la fusis et de l'ordre des choses. Il y a la véridiction qui dit démonstrativement ce qu'il en est des savoirs et des savoir-faire. Il y a enfin la véridiction qui dit polémiquement ce qu'il en est des individus et des situations. Ces quatre modes de dire vrai sont, je crois, absolument fondamentaux pour l'analyse du discours en tant que dans le discours se constitue le sujet pour lui-même et pour les autres, le sujet qui dit vrai. Je crois que le sujet qui dit vrai, eh bien, depuis la culture grecque, il prend ces quatre formes possibles, où il est le prophète, où il est le sage, où il est le technicien, où il est le parésiaste. Je crois qu'il pourrait être intéressant de chercher comment ces quatre modalités, qui encore une fois ne s'identifient pas une fois pour toutes à des rôles ou à des personnages, comment elles ont pu se combiner et comment elles se combinent dans les différentes cultures, sociétés ou civilisations, dans les différents modes de discursivité, dans ce qu'on pourrait appeler les différents régimes de vérité que l'on peut retrouver dans différentes sociétés. Il me semble, c'est en tout cas ce que j'ai essayé de vous montrer, même schématiquement, que dans la culture grecque, à la fin du 5e, début du 4e siècle, on peut repérer, bien répartis en une sorte de rectangle, ces quatre grands modes de véridiction, celui du prophète et du destin, celui de la sagesse et de l'être, celui de la techné et celui de l'enseignement et de la techné, et celui de la parésia avec l'éthos. Mais si ces quatre modalités sont ainsi assez bien déchiffrables, séparables et séparées les unes des autres à cette époque, je crois que c'est un des traits de l'histoire de la philosophie antique, un des traits sans doute aussi de la culture antique en général, que entre le second et le quatrième, je veux dire, entre le mode de dire vrai caractéristique de la sagesse et le mode de dire vrai caractéristique de la parésia, eh bien, il y a une tendance à se rejoindre, à se joindre, à se lier l'un à l'autre en une sorte de modalité philosophique du dire vrai, très différent d'une part du dire vrai prophétique, différent aussi de cet enseignement des technés dont la rhétorique sera par exemple un des exemples, et puis on verra s'isoler, se former en tout cas un dire vrai philosophique et qui prétendra avec de plus en plus d'insistance ne pas tellement chercher à dire l'être ou la nature des choses, ou en tout cas à ne dire l'être ou la nature des choses que dans la mesure où ces dire vrai sur l'être et la nature des choses pourront concerner, pourront être pertinents, pourront articuler et fonder un dire vrai sur l'éthos dans la forme de la parésia. Et dans cette mesure-là, on peut dire que sagesse et parésia vont jusqu'à un certain point seulement, bien sûr, se confondre. En tout cas, ils vont être comme attirés l'un vers l'autre. Il va y avoir comme un phénomène de gravitation de la sagesse et de la parésia, gravitation qui va se manifester dans ces fameux personnages de philosophes disant la vérité des choses, mais disant surtout leur vérité aux hommes tout au long de la culture hellénistique et romaine ou gréco-romaine. Bon, voilà une possibilité d'analyse, si vous voulez, d'une histoire des régimes, du régime de la vérité concernant les rapports entre parésia et sagesse. On pourrait dire que dans le christianisme, si on reprend encore ces quatre grands modes fondamentaux dont je vous ai parlé, on pourrait dire que le christianisme, ou en tout cas le christianisme médiéval, a opéré d'autres rapprochements. Donc la philosophie hellénistique et gréco-romaine avait rapproché la modalité parésiastique et la modalité de la sagesse. Il me semble que dans le christianisme médiéval, on voit un autre type de regroupement, le regroupement de la modalité prophétique et de la modalité parésiastique, je dirais le 1 et le 4. La modalité prophétique, dire vrai sur l'avenir, dire vrai sur ce qui est caché aux hommes en fonction, en raison même de leur finitude et de la structure du temps, dire vrai sur ce qui attend les hommes et sur l'imminence de l'événement encore caché, et puis dire vrai aux hommes sur ce qu'ils sont, eh bien, ces deux formes de dire vrai, vous savez bien qu'ils ont été très singulièrement rapprochés dans un certain nombre de formes de discours et d'ailleurs d'institutions aussi. Je pense à la prédication et au prédicateur. Le prédicateur, et surtout ces prédicateurs qui, à partir du mouvement franciscain et dominicain, vont traverser tout le monde occidental et tout le Moyen-Âge, jouant un rôle historique absolument considérable dans à la fois la perpétuation, mais aussi le renouvellement, la transformation et la menace pour le monde médiéval. Eh bien, ces grands prédicateurs ont joué dans cette société-là à la fois le rôle du prophète et le rôle du parésiaste, celui qui dit l'imminence menaçante du demain, du royaume du dernier jour ou du jugement dernier, ou de la mort qui approche, et disant en même temps aux hommes ce qu'ils sont, et leur disant franchement, en toute parésia, quelles sont leurs fautes, leurs crimes, et en quoi et comment ils doivent changer leur mode d'être. Et en face de cela, il me semble que cette même société médiévale, cette même civilisation médiévale, a eu tendance à rapprocher les deux autres modes de véridiction, la modalité de la sagesse qui dit l'être des choses et leur nature, et puis la modalité de l'enseignement, dire vrai sur l'être, dire vrai sur le savoir. Eh bien, je crois que cela a été la tâche d'une institution, elle aussi, aussi spécifique du Moyen-Âge que l'a été la prédication, et qui est l'université. La prédication et l'université me paraissent des institutions propres au Moyen-Âge et dans lesquelles on voit se regrouper deux par deux les fonctions dont je vous ai parlé et qui définissent, vous voyez, un régime de véridiction, un régime du dire vrai très différent de celui qu'on pouvait trouver dans la philosophie, dans le monde hellénistique et gréco-romain, où c'était parésia et sagesse qui étaient plutôt combinées. Et alors, l'époque moderne, me direz-vous ? Eh bien, je n'en sais trop rien. Alors, je vous dirais que ça serait sans doute à analyser. On pourrait peut-être se dire, mais tout ça c'est des hypothèses, c'est même pas des hypothèses, c'est des propos presque incohérents. Dire ceci, que vous retrouvez bien dans la modalité du dire vrai, prophétique, dans un certain nombre de discours politiques, des discours révolutionnaires, dans la société moderne, le discours révolutionnaire qui, comme tout discours prophétique, parle au nom de quelqu'un d'autre et parle pour dire un avenir qui a déjà, jusqu'à un certain point, la forme du destin. Quant à la modalité ontologique du dire vrai qui dit l'être des choses, eh bien, elle se formulerait sans doute dans le discours philosophique ou dans une certaine modalité de discours philosophique, et la modalité technique du dire vrai, la modalité technicienne, eh bien, elle s'organise beaucoup plus autour de la science que de l'enseignement, ou en tout cas, elle s'organise autour d'un complexe constitué par les institutions de science et de recherche et les institutions d'enseignement. Et là-dedans, la modalité parésiastique, eh bien, je crois que justement, elle a comme telle disparu. Elle a comme telle disparu et on ne la retrouve plus que greffée et prenant appui sur l'une de ces trois modalités dont je vous parle. Le discours révolutionnaire, quand il prend la forme d'une critique de la société existante, il joue le rôle, je crois, de discours parésiastique. Le discours philosophique, analyse et réflexion sur la finitude humaine et critique de tout ce qui peut, soit dans l'ordre du savoir, soit dans l'ordre de la morale, déborder les limites de la finitude humaine, je crois que le discours philosophique jouant ce rôle, joue bien un peu le rôle de la parésia. Quant au discours scientifique, lorsqu'il se déploie, et il ne peut pas ne pas se déployer dans son développement même comme critique des préjugés, des savoirs existants, des institutions dominantes, des manières de faire actuelles, le discours scientifique joue bien ce rôle parésiastique. Bon, et bien voilà ce que je voulais vous dire. Alors, en fait, j'avais l'intention de commencer à vous parler de la parésia telle que je veux l'étudier cette année, mais ça servirait à quoi? J'aurai 5 minutes pour vous dire ça, et puis il faudra recommencer la prochaine fois. Alors, si vous voulez, on va aller boire un café. Je pourrais vous dire, je veux bien répondre à vos questions, mais je crains que ça n'ait pas grande signification dans les auditeurs. Non, écoutez, alors pour... Ah si, oui, j'ai deux choses à vous dire, oui. Alors cette question-là, puis une autre toute petite chose à vous dire. Sur le séminaire, encore une fois, je vous ai dit, il y a un problème ici institutionnel et juridique. En principe, on n'a pas le droit de faire de séminaire fermé. Et lorsqu'il m'est arrivé de faire un séminaire fermé, celui qu'on a fait pour Pierre Rivière, par exemple, qui vient peut-être, il y a eu des plaintes, et en effet, juridiquement, on n'a pas le droit de faire un séminaire fermé. Seulement, je crois qu'actuellement, pour certains types de travaux, demander aux professeurs de donner publiquement un état de leur recherche, en les empêchant d'avoir un séminaire fermé où ils puissent, avec des étudiants, faire ces recherches, je crois qu'il y a là une contradiction. Autrement dit, on peut demander à un professeur de faire état de ses recherches en enseignement public, et rien d'autre que cela, s'il fait des recherches qu'il peut mener tout seul. Et si vous voulez, c'est une des raisons purement techniques pour lesquelles, en effet, depuis des années, je fais des cours sur la philosophie ancienne, parce qu'il suffit après tout d'avoir les 200 volumes de chez Budé et à sa disposition, et puis voilà, on n'a pas besoin d'un travail d'équipe. Mais si je veux étudier ce que je voudrais faire, les pratiques, formes, rationalités de gouvernement dans la société moderne, je ne peux vraiment le faire qu'en équipe. Or, le faire en équipe, vous comprenez bien, ce n'est blessant pour personne ici, c'est-à-dire que cet auditoire ne pourra pas constituer une équipe. Alors, ce que je voudrais, c'est obtenir le droit de partager l'enseignement en deux, un enseignement public qui est statutaire, mais aussi un enseignement, une recherche en groupe fermé, qui est, je crois, la condition pour pouvoir mener, ou en tout cas renouveler, l'enseignement public qu'on donne. Donc, il y a, je crois, contradiction à demander aux gens de faire de la recherche et de l'enseignement public si on ne donne pas à la recherche qu'ils doivent faire les supports institutionnels qui la rendent possible. Bon, voilà. Deuxièmement, alors, une toute petite chose, il est probable, vous savez, je ne sais jamais très bien d'une semaine à l'autre ce que je vais faire, mais j'ai un peu l'intention de vous faire, soit la semaine prochaine, soit peut-être la semaine suivante, un cours, mais juste comme ça, enfin, une moitié de cours, sur le dernier livre de Dumézil, enfin l'un des deux derniers, celui, vous savez, sur le moine guéri en noir, qui concerne Nostradamus, et qui comporte une seconde partie sur Socrate, et le Phédon, et le Criton. Alors, comme c'est un texte difficile, si certains d'entre vous veulent le lire avant, je n'en fais évidemment aucune obligation, on n'est pas dans un séminaire fermé, vous faites ce que vous voulez, mais enfin, si vous avez l'occasion de le lire, j'aimerais bien en parler sans doute dans 15 jours. Peut-être la semaine prochaine, mais dans 15 jours.
Dans le cadre d'un séminaire
ou Non, mais du cours. Non, simplement pour... Parce que je me rends bien compte que si je veux faire un cours là-dessus, il faudra... Enfin, ça supposera un petit peu que les gens aient une idée de ce qu'il y a dans ce... Voilà, ben merci beaucoup.